Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni éthique ni responsable, le podcast qui parle d'expériences scientifiques et sociales, cocasses ou dégueulasses, et parfois les deux. Aujourd'hui, on va revenir aux origines de ce podcast. Nous sommes en 2009, je suis au lycée et je dois présenter avec une amie notre projet de travaux pratiques encadrés, vous savez, les TPE. Tous ceux de ma génération ont dû y passer sans trop savoir à quoi ça servait. Et vu que j'ai aucune idée de quel âge vous avez et de si ça existe encore, pour vous résumer, le concept était de choisir un sujet, n'importe lequel, et d'en faire un exposé avec un dossier écrit. On le présentait alors à deux professeurs et c'était notre première note à compter pour le bac. Je sais pas pourquoi, mais mon amie voulait absolument parler de la censure par les nazis. Elle voulait parler d'autodafé et de réécriture de l'histoire. Moi, à cette époque, j'étais plus partie sur un sujet économie du jeu vidéo, entre numérique et physique. Mais que voulez-vous, on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Bizarrement, le prof de philo qui nous encadrait était plus hypé par les nazis. Enfin, façon de parler, vous m'avez compris. Donc nous voilà partis à fouiller dans les heures sombres de notre histoire, à construire notre dossier et à le présenter devant une professeure d'histoire qui littéralement se faisait les ongles pendant notre présentation et un professeur de philosophie qui était bien plus investi. C'est d'ailleurs lui qui, pendant les questions-réponses, nous dit « Je vais être vilain et vous poser une question qui n'a pas de bonne réponse. À votre avis, pourquoi la plupart des Allemands ont voté pour et ensuite suivi aveuglément Hitler, même s'il n'était pas fasciste. » Bon, on a baragouiné une réponse qui a eu l'air de le satisfaire, on a eu une bonne note en ressortant, mais la question est restée dans un coin de ma tête. L'année suivante, à l'épreuve d'histoire du bac, le sujet était la mémoire de la guerre. On revenait alors sur la compartimentation des tâches dans les camps de concentration. En gros, l'idée est la suivante. En assignant à chacun une seule et même tâche insignifiante, on le déresponsabilise de son acte barbare et on le rend plus docile. Je n'ai fait que conduire le train, je n'ai fait qu'ouvrir une porte, je n'ai fait qu'appuyer sur un bouton, etc. Décidément, l'univers en remet une couche pour que je me penche sur le sujet. Et c'est pas fini. L'année d'après, je regarde le film « I comme Icare », un film français réalisé par Henri Verneuil et sorti en 1979. Et dans ce film, il y a une scène qui m'a marquée. D'ailleurs, c'est la seule scène dont je me souviens de tout le film. Cette scène, elle reprend l'expérience dont on va parler aujourd'hui, qui elle-même veut expliquer les origines de cette obéissance aveugle. Elle m'a fascinée et c'était le début de ma grande passion des expériences sociales. Donc laissez-moi vous parler de Stanley Milgram et de ses expériences sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité. One man crazy. Three very sane spectators. Stanley Milgram est né dans le Bronx le 15 août 1933. Il est le descendant d'une famille modeste de juifs immigrés, originaires d'Europe de l'Est. Son père était boulanger en Hongrie et sa mère venait de Roumanie. Stanley Milgram était quelqu'un de très intelligent et a fait de brillantes études en sciences politiques puis en relations sociales. Il a eu son doctorat à Yale et y est devenu professeur. Milgram a porté un intérêt à l'obéissance à l'autorité très tôt dans ses recherches. Il voulait comprendre quelles étaient les causes à l'origine de l'extermination des Juifs, un sujet qui lui tenait très à cœur au vu de ses origines, comme vous l'aurez compris.
L'influence de l'Holocauste sur ma propre psyché donna toute son impulsion à mon intérêt pour l'obéissance et détermina la forme particulière sous laquelle elle a été étudiée.
Son idée va s'affiner lorsqu'en 1960, il fut assistant de recherche pour Solomon Asch, un des pionniers de la psychologie sociale, dans la rédaction d'un ouvrage consacré à la conformité. Milgram voulait donner à cette recherche une dimension plus humaine, plus sociale. Il déclarera d'ailleurs
« Je me demandais si des groupes pourraient exercer une pression telle sur une personne qu'elle exécuterait un acte, peut-être en agissant de façon agressive envers une autre personne, par exemple en lui administrant des chocs de plus en plus sévères. Jusqu'où une personne serait-elle prête à aller si elle était placée sous les ordres d'un expérimentateur ? C'était un moment incandescent. »
Puis, tout va se bousculer dans sa tête. On n'est pas très loin de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est encore dans tous les esprits. Et un autre événement va surgir qui va finir de convaincre Milgram de lancer son étude. Adolf Eichmann est un fond de raclure de bidet. Et croyez-moi, c'est vraiment pas sympa pour le bidet. Eichmann était un membre du parti nazi, un fonctionnaire du Troisième Reich et un criminel de guerre. Un CV comme on n'a pas envie de rencontrer. Pendant la guerre, il est nommé à la tête du RSHA, le bureau qui s'occupe des affaires juives et de l'évacuation. Il est responsable de la logistique de la solution finale, de l'extermination des Juifs et de leur déportation vers les camps de concentration et d'extermination. À la fin de la guerre, comme vous vous en doutez, ça commence à chauffer pour son cucu. Il arrive à se barrer et à rejoindre l'Autriche avec sa femme. Mais ses camarades planqués lui conseillent bien vite de déguerpir parce qu'il est considéré comme criminel de guerre et pas eux. Du coup, ils aimeraient pas que sa présence ramène du gratin indésirable, si vous voyez ce que je veux dire. Il change alors de nom et d'apparence, fait ses valises et fuit dans la montagne. Mais il se fait arrêter par les Américains qui ont bien reconnu le tatouage SS qu'il avait sur le bras, cet idiot. Il sera alors incarcéré dans un camp, en attendant son procès à Nuremberg. Mais pas de bol, Eichmann est en fait avec tous ses amis dans le camp. Avec leur aide et celle d'une infirmière, il parvient à s'échapper le 5 février 1946 avec, en bonus, des faux papiers. Et là, pendant quelques années, il va vivre la belle vie en Allemagne. Il va bosser comme bûcheron, puis éleveur de poules. Mais le service de renseignement militaire américain, le CIC, ne l'a jamais lâché. Ils vont interroger sa femme, puis ses parents. Eichmann sent qu'il est temps de laisser ses poules. Il va partir du côté de l'Autriche pour rejoindre l'Italie, et comme beaucoup d'autres de son espèce, il va finir en Argentine. Le 14 juillet 1950, il débarque à Buenos Aires, va trouver un boulot et finir par faire venir sa femme et ses trois fils. Sauf qu'en fait, le CIC ne le lâche toujours pas. Dès 1953, ils savent où il est et sous quel nom. Je vous passe les négociations politiques, mais 7 ans plus tard, le premier ministre israélien, David Ben-Gourion, lance l'opération Attila. Le Mossad va enlever Eichmann en pleine rue, juste devant chez lui, le 11 mai 1960. Il est rapatrié en Israël, où il sera jugé et condamné à mort. Eichmann fut pendu le 31 mai 1962, 4 jours après que Milgram eut achevé son expérience sur l'obéissance.
Avec un souci de rendement comparable à celui d'une usine de pièces détachées, on a construit des chambres à gaz, gardé des camps de la mort, fourni des quotas journaliers de cadavres. Il se peut que des politiques aussi inhumaines aient été conçues par un cerveau unique, mais jamais elles n'auraient été appliquées à une telle échelle s'était trouvé autant de gens pour les exécuter sans discuter. L'extermination des Juifs, européens par les nazis, reste l'exemple extrême d'actions abominables accomplies par des milliers d'individus au nom de l'obéissance.
Voilà pour le contexte historique et désolé pour l'ambiance que je viens de poser. Passons maintenant à l'expérience en elle-même. Milgram voulait d'abord tâter le terrain pour affiner ses hypothèses. Il a d'abord interrogé une centaine de personnes, à savoir des psychiatres, des étudiants et des adultes lambda, et leur a demandé ce qu'ils feraient face à un ordre donné par une personne d'autorité de faire souffrir quelqu'un. La quasi-totalité des personnes avait répondu qu'ils désobéiraient à cet ordre. Mais l'expérience prouvera le contraire. Nous sommes fin novembre, début décembre 1960, et Milgram va conduire une série d'expériences pilotes accompagnées d'une vingtaine de ses étudiants afin d'affiner son projet. Voici son protocole de base. Les sujets croient qu'ils participent à une expérience sur l'apprentissage humain. Le sujet actionne un panneau de commande consistant en une série de commutateurs disposés en ligne. Le commutateur à gauche est étiqueté 1, choc très léger. Le commutateur à l'extrême droite, 15, choc extrême, danger. Ce panneau de commande permet au sujet A, le sujet naïf, d'administrer une série graduée de chocs électriques au sujet B, la victime. Il va sans dire que le sujet B, la victime, ne souffre pas réellement, mais elle est complice de l'expérimentateur. Le sujet A l'ignore et croit qu'il administre réellement les chocs au sujet A. À mesure que l'expérience sur l'apprentissage continue, le sujet reçoit l'ordre de délivrer des chocs de plus en plus élevés. Les résistances internes devenant plus fortes, à un certain moment, il refuse de continuer l'expérience. Le comportement qui précède cette rupture, nous le considérerons comme obéissance, en ce que le sujet exécute les ordres de l'expérimentateur. Le point de rupture est l'acte de désobéissance. Les étudiants de Milgram avaient fabriqué une version rudimentaire de la fausse machine qui envoie des coups de jus. Après plusieurs itérations de l'expérience, les résultats sont surprenants. Les sujets, dans leur quasi-totalité, étaient prêts à mettre de côté leurs convictions morales afin d'obéir à un ordre contraire à leur éthique, même s'il était évident que cela les mettait dans un état d'anxiété important. Avec cette découverte surprenante, Milgram va rendre son rapport à l'organisme gouvernemental qui avait partiellement financé l'étude. Faut croire que eux aussi ont trouvé les résultats saisissants puisqu'ils ont rallongé l'enveloppe de 24 000 $ afin que Milgram continue ses recherches. Eh bien c'est parti, on lance l'usine à recherche avec cette fois plus de 1000 personnes qui passeront le test sous des variations différentes. Mais avec une telle ambition, il faut un peu s'adapter. Entre juin et juillet 1961, Milgram va déménager de la cave où il était vers les laboratoires de Yale. On recrute des volontaires via des petites annonces dans les journaux et par courrier, en leur faisant croire qu'ils allaient participer à une étude sur la mémoire. Pour finir de les convaincre, on les dédommage de $4.50, ce qui est bien au-dessus de la moyenne. On établit les procédures, on écrit les scripts pour l'expérimentateur et les complices, et on construit une bien plus belle machine, encore plus convaincante. Imaginez un film de science-fiction avec des panneaux lumineux qui font blip bloop, et vous ne serez pas très loin de la vérité. Milgram voulait que la machine soit sobre et inquiétante. Pensez scientifique fou de l'URSS ou de vous savez qui dans le contexte. Elle est composée d'une série de commutateurs, chacun avec une indication sur le choc délivré. De 15 volts à 450 volts, et une indication sur ce que cela représente, de choc faible à danger, choc sévère. Pour vous donner une idée, 15 volts, c'est à peu près ce que vous avez sur l'allume-cigare de votre voiture. 450 volts, c'est plus de deux fois ce qu'on a dans nos prises électriques de la maison. Ceux qui se sont déjà pris une châtaigne viennent de serrer les fesses.
C'est pas dangereux votre truc.
Parce que c'est un spectacle son et lumière, un bruit de bourdonnement se déclenchait à chaque pression sur un bouton, et des aiguilles se déplaçaient dans un cadran en plus de toutes les diodes inutiles qui clignotaient. Enfin, et le petit détail qui change tout, une fausse plaque du fabricant avait été réalisée et soudée sur la machine. Générateur de choc, type ZLB, société Instruments Dyson, Waltham, Massachusetts, sortie 15, 450 volts. Nous sommes le 7 août 1961, and it's showtime! L'expérience va connaître 18 variations afin d'affiner les résultats de l'expérience. Mais le noyau dur était le suivant. On faisait rentrer le sujet dans le laboratoire. On lui présentait deux hommes, le premier un Américain d'origine irlandaise de 47 ans, à l'allure rondouillarde et sympathique, Monsieur Wallace, soi-disant un autre volontaire. Vous l'aurez compris, il jouera le rôle de la victime et son vrai nom est James McDonough. Il a été choisi spécialement parce qu'il avait l'air sympathique et innocent. Et j'imagine que des qualités d'actorat n'étaient pas de trop. Le second homme est l'assistant de Milgram, un homme de 31 ans, sec et austère, nommé John Williams. Vêtu de sa blouse de scientifique, il se présentait comme le responsable qui allait diriger l'expérience. On expliquait ensuite au sujet qu'il allait participer à une étude sur la mémoire. Il y aurait deux rôles pour les sujets, un serait le moniteur, un serait l'élève. Le rôle de l'élève est de mémoriser une suite de mots. Ce que notre pauvre cobaye ne savait pas et qu'il apprend à l'instant, c'est qu'on demanderait au moniteur d'envoyer des décharges électriques à chaque mauvaise réponse de l'élève. Une fois les règles établies, aucun des sujets participant à l'expérience n'émit d'objection ou refusa à participer. On leur dit que les rôles de l'élève et du moniteur seraient tirés au sort. Évidemment, le tirage était truqué afin que le vrai sujet prenne le rôle du moniteur. On accompagne ensuite l'élève, on le fait asseoir sur un fauteuil métallique, les poignets reliés à des électrodes et fixés par des sangles. Et pour s'assurer que le moniteur ne doute pas de la véracité de l'expérience, on lui administre une petite décharge de 45 volts, et ce sera la seule vraie décharge administrée pendant toute l'expérience. Ensuite, on pose les questions, on donne les ordres, et on voit jusqu'où le sujet est prêt à aller sous les cris du complice.
Eh bien messieurs, d'abord quelques mots sur l'expérience que nous allons tenter aujourd'hui. Une théorie établie par des psychologues soutient que l'individu apprend correctement et d'une manière plus efficace lorsqu'il sait que chaque erreur de sa part lui attirera une punition. Une application dans la vie courante, c'est, par exemple, la fessée que les parents administrent à l'enfant lorsqu'il se trompe. Ils espèrent que cette forme de punition particulière incitera l'enfant à mieux se souvenir. Dans le cadre de cette université, nous intéressons seulement aux adultes. Et c'est scientifiquement que nous allons mesurer à quel degré chiffré la punition peut avoir une influence sur la mémoire. Aujourd'hui, messieurs, l'un de vous sera l'élève qui s'efforce de se souvenir, l'autre sera le moniteur qui, en lui infligeant des punitions progressives, va le conduire à mieux utiliser sa mémoire. Le mieux, il me semble, est de tirer au sort pour désigner qui sera le moniteur et qui sera l'élève.
Ah, je suis le moniteur.
C'est donc Monsieur Rivoli qui sera l'élève.
Première variante, celle du feedback à distance. Cette fois-ci, le moniteur ne voit pas l'élève, ils sont dans deux pièces différentes. Les réponses de l'élève s'affichent sur un écran dans la pièce du moniteur. Par contre, le moniteur peut entendre l'élève frapper sur les murs à partir de 300 volts. Et à partir de 315 volts, l'élève ne répond plus et ne fait plus aucun bruit. Résultat, 65% des sujets ont accepté d'envoyer non pas une, non pas deux, mais bien trois fois une décharge de 450 volts, la décharge maximale, même s'il était évident qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise à le faire. Deuxième variante, dite de feedback vocal, c'est le même principe que la précédente, sauf que cette fois-ci, le moniteur peut entendre les gémissements, les cris et les supplications de l'élève. Les résultats sont sensiblement les mêmes que précédemment. Troisième variante, celle de proximité. Les deux sont dans la même pièce. Cette fois-ci, les résultats sont bousculés. Il n'y a plus que 40% des sujets qui acceptent d'aller jusqu'au bout. Et le résultat tombe à 30% lorsqu'on leur demande de contraindre physiquement l'élève à poser sa main sur une plaque.
Alors, le mot suivant, c'est...
Un instant, monsieur. La main droite de monsieur Rivoli vient de glisser. L'électrode n'est plus en contact. Il faut que vous alliez rattacher l'élève.
C'est à moi de faire ça?
Vous devez veiller à l'exécution correcte de ce qui a été convenu.
Une phase très intéressante de l'expérience. Le contact physique. Jusque-là, il agissait par manette interposée. Il doit maintenant toucher un homme qui ne lui a absolument rien fait et qu'il est en train de martyriser. Il arrive dans ces cas-là que le taux d'obéissance diminue.
Après ces trois premières variantes, Milgram tire une première conclusion. Plus la souffrance est lointaine, plus le sujet est prêt à obéir aveuglément. Plus la souffrance est proche et palpable, plus le sujet est prompt à la désobéissance. Néanmoins, Milgram est étonné de ses résultats, surtout vis-à-vis des réponses à son premier questionnaire, où, je vous le rappelle, les gens répondaient qu'ils désobéiraient dès lors qu'on leur donnerait un ordre contraire à leurs valeurs. À la clôture de cette première expérience, Milgram écrira « Les résultats sont terrifiants et déprimants. Ils suggèrent que la nature humaine,
ou plus précisément le type de personnalité produit par la société américaine, ne peut être considéré comme mettant ses citoyens à l'abri de la brutalité et de traitements inhumains commandés par une autorité malveillante. Une proportion substantielle de gens fait ce qu'on lui demande de faire, quel que soit le contenu de l'acte, sans tourment de conscience, dès lors qu'ils perçoivent que l'ordre émane d'une autorité légitime. »
Cinquième variante, on joue sur la corde sensible. On dit au sujet que l'élève souffre de petits soucis cardiaques. À partir de 150 volts, l'élève déclare qu'il commence à souffrir de douleurs cardiaques. On supposait que cela ferait baisser le taux d'obéissance des sujets. Mais en fait non, 65% d'entre eux ont été jusqu'aux 450 volts. Sixième variante, on échange les rôles de good cop, bad cop. L'expérimentateur devient doux et un peu marrant, tandis que l'élève devient austère. Pas vraiment de changement dans les résultats. Si on pouvait supposer que c'était le côté sec et autoritaire de l'expérimentateur qui pouvait influer sur l'obéissance des sujets, il semblerait que ce soit plutôt son rôle en tant qu'expert et personne d'autorité qui en soit à l'origine. Pour affiner cette théorie, on passe à la septième variante. Cette fois-ci, l'expérimentateur n'était plus dans la pièce avec le sujet et donnait ses ordres par téléphone. Et là, il y a eu du changement. L'acte de désobéissance est arrivé bien plus tôt dans la majorité des cas. Et, fait encore plus intéressant, les sujets étaient prompts à mentir. Ils ne respectaient pas le protocole et étaient prêts à gâcher l'expérience, mais pas à défier l'autorité.
Regardez bien. Despol essaie de diminuer son conflit intérieur en aidant sa victime.
Ah bah, si ce conflit lui est tellement insupportable, pourquoi ne s'arrête-t-il pas?
S'il s'arrête, il reconnaît implicitement qu'il a eu tort d'aller jusque-là. En continuant, il justifie tout ce qu'il a fait jusqu'à présent.
Huitième variante, la variante avec que des femmes, parce que c'est bien connu, les femmes sont plus sensibles et vont craquer plus vite. Eh ben non, 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 prends ça dans les dents le patriarcat. Les femmes aussi, dans leur majorité, ont poussé les potards à fond. Pause, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Après chaque expérience, Milgram réalisait un entretien avec les sujets. Il leur demandait notamment ce qui les avait poussés à obéir aux ordres. Beaucoup d'entre eux ont répondu qu'ils avaient envoyé les décharges maximales malgré les cris et les protestations de l'élève parce que ce dernier avait accepté une sorte de contrat. En effet, les règles avaient été établies avant de commencer. Les deux protagonistes les avaient acceptées et selon le sujet, quoi qu'il arrive ensuite, il était trop tard pour reculer. N'en dites pas plus mon ami, nous allons adapter les règles du jeu. Neuvième variante, on ajoute une ligne au contrat. L'élève fait savoir que, vu l'état de santé de son cœur, il demande à ce que l'expérience soit interrompue dès qu'il le demande. Et ben vous savez quoi? Ça n'a rien changé. Et même les sujets qui désobéissaient avant les 450 volts ne le faisaient pas à cause de l'état de santé de l'élève. Pire! Ceux qui allaient jusqu'au bout s'inquiétaient plus de savoir si on pouvait les poursuivre légalement pour ce qu'ils faisaient. Une fois qu'on les avait rassurés sur ce point, eh ben ils n'hésitaient pas à appuyer sur le bouton, hein.
Il va pas bien du tout, ça risque de mal tourner.
Je prends sur moi toute la responsabilité.
Si vous prenez la responsabilité...
Ah, fichtre! Milgram se demanda si cette obéissance aveugle pouvait venir du fait qu'ils étaient à Yale, une université prestigieuse qui pouvait donner du crédit à cette expérience. Milgram déménagea donc son laboratoire dans un centre commercial et dit au sujet qu'il faisait des recherches pour le compte d'un organisme de recherche privé. Les résultats n'en furent pas vraiment impactés. Il semblerait que ce ne soit pas le cadre qui influence le résultat de l'expérience, mais plutôt le fait que ce soit à chaque fois une autorité scientifique qui l'amène. Milgram explique
« Il est possible que, pour qu'il puisse être perçu comme légitime, des ordres d'un genre potentiellement douloureux ou destructeur doivent émaner d'une structure institutionnelle. Mais cette étude montre clairement que l'institution n'a pas besoin d'être particulièrement connue ou réputée. Nos sujets peuvent considérer qu'un laboratoire est aussi compétent qu'un autre dès lors qu'il s'agit d'un laboratoire scientifique. »
La croyance commune veut aussi que l'homme soit un animal cruel et sadique. Variation 11. On laisse le choix au sujet du voltage qu'il va infliger. Eh bien non, l'homme n'est pas si cruel que ça puisque la majorité sont restés sur des voltages faibles et dès que l'élève commençait à émettre des signes de protestation, le moniteur baissait le voltage. Seuls 2 sujets sur 40 se sont avérés être un chouïa sadique. J'espère qu'on a gardé leurs coordonnées dans un coin pour la police. Dans la 12e variation, on secoue les habitudes. C'est l'élève qui donne les ordres cette fois-ci. Il exigeait qu'on continue l'expérience et qu'on lui envoie des décharges. Ça fait très masochiste. À l'inverse, l'expérimentateur demandait d'arrêter dès les premières manifestations de douleur. Là aussi, les sujets continuaient d'obéir à l'expérimentateur. L'habit fait donc le moine, j'imagine. Pour pousser le bouchon un peu plus loin, dans la variation 13, c'est un individu ordinaire qui donne les ordres. On dit au sujet que l'expérimentateur avait une urgence ailleurs et lui, il était là pour le remplacer. Il a vu de la lumière et bon, vous connaissez l'histoire. Cette fois-ci, même si on a dit au sujet que l'expérience était enregistrée, le taux d'obéissance a légèrement diminué. C'est vraiment l'habit qui fait le moine, du coup. Variante 14. On met l'expérimentateur dans le rôle de l'élève et l'individu ordinaire dans le rôle du donneur d'ordre. Et là, la majorité des sujets refusèrent de continuer l'expérience après les premiers gémissements. Ce qui prouve bien que l'autorité prend le pas sur l'ordre en lui-même. Variation 15, papa et maman s'engueulent devant les enfants. Deux représentants de l'autorité démontrent un désaccord devant le sujet, ce qui le paralyse totalement. Il est alors incapable de prendre une décision. Dans la variante suivante, on prend 2 personnes représentant l'autorité, ayant une hiérarchie équivalente. L'un donne les ordres, l'autre sera l'élève. Et là, les résultats sont surprenants. La minorité refuse d'envoyer des châtaignes dès qu'une douleur apparaît, mais la majorité continue de suivre les ordres. En effet, même si les 2 personnes ont le même niveau hiérarchique, la situation fait que l'expérimentateur élève est sous les ordres du second expérimentateur. C'est donc ce dernier qui récupère le statut d'autorité. L'habit et la situation font le moine, j'imagine. Enfin, c'est plus très clair cette allégorie.
30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges.
Les 2 dernières variations sont celles que je trouve les plus intéressantes. L'effet de groupe. On appelle d'autres complices. Le sujet n'aura plus qu'un rôle de spectateur, ce n'est plus lui qui va appuyer sur les boutons, mais il va participer au débat. Dans le premier cas, le groupe complice désobéit très tôt. Dans le second cas, le groupe complice obéit aveuglément aux ordres. Dans les 2 situations, le sujet va suivre le mouvement de groupe. Par la suite, on reprochera à Milgram d'avoir manipulé à leur insu des sujets naïfs qui s'étaient portés volontaires pour son étude. Bon, déjà, si vous êtes là depuis le début de ce podcast, vous savez que c'est monnaie courante et qu'on a vu bien pire. On l'accusera d'avoir mis ses sujets dans des situations de troubles physiques et psychiques. Les sujets manifestaient une réelle souffrance face aux cris, aux plaintes et aux supplications de la victime. Milgram reçut des critiques particulièrement virulentes, remettant en cause l'éthique de sa démarche. Une des critiques les plus dures qu'il ait reçues vient de Bruno Bettelheim, un psychologue d'origine autrichienne qui avait été déporté dans les camps de Dachau et de Buchenwald. Il déclara que la recherche est si vile que rien de ce que montrent ses expériences n'a la moindre valeur. Elles s'inscrivent dans la lignée des expériences faites par les nazis. Dur. Mais laissons un droit de réponse à Milgram. Ce dernier argumentera que c'était une exposition temporaire et que ça n'en faisait pas un traumatisme. De plus, après que les sujets furent informés de la vraie nature de l'expérience et du fait qu'aucune des charges n'avait vraiment été envoyée, plus de 80% d'entre eux ne protestèrent pas vis-à-vis du procédé utilisé. Mieux, la plupart déclarèrent qu'ils avaient appris sur eux-mêmes. Une étude psychiatrique a été réalisée par la suite sur les sujets qui ne révéla aucun traumatisme manifeste. En tout cas, cette expérience a fait grand bruit dans le domaine de la psychologie. Au moins 8 réplications de cette expérience ont été réalisées dans le monde entier entre 1968 et 1985. Certains ajoutèrent quelques nouvelles variations, mais la majorité sont venues confirmer ce que Milgram avait déjà découvert. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses, même si l'expérience de Milgram est probablement une des plus connues. Pour cet épisode, je me suis basée sur le livre « Expérience sur l'obéissance et la désobéissance à l'autorité » de Stanley Milgram, avec une préface de Michel Terestchenko et une postface de Marianne Fazi, et c'est paru aux éditions de La Découverte. Les extraits audio proviennent du film « I comme Icare », qui à l'heure où je vous parle n'est malheureusement disponible nulle part en streaming légal, mais se trouve facilement en DVD. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et vous pouvez aussi me laisser vos commentaires et des messages vocaux si vous passez par Anchor. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode ni éthique ni responsable.